With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Allez, c'est parti, prenez place, c'est l'heure de fin de séance, épisode 21, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine sur Séance Radio, vous le savez, j'espère que vous allez bien. Nous, on est vraiment au top là aujourd'hui les gars, hein. Franchement, on est super bien installés, on est au Hurling Pub, à la mezzanine, à la cool. Hein.
Dans le salon VIP.
Ah ouais, putain, c'est la grand première luxe. Fois. Je vous invite hein, à venir nous voir chaque fin de semaine quand on enregistre à la mezzanine. On est vraiment super bien installés maintenant, on a de la place, des canapés, c'est super cool. Hein. On va vous parler aujourd'hui de deux films. Deux grosses sorties ciné, une sortie ciné-salle et une sortie ciné-Netflix. On va vous parler de Saltan à Hôtel El Royal et Outlaw King sur Netflix. Et aujourd'hui avec moi, Pierre Delors de funfootage.fr qui est revenu. Salut bébé.
je m'y attendais pas. Ça va très bien. Je reviens avec des étoiles dans les yeux à part... Vu John Williams, été à Londres pour voir John Williams.
Bon, c'était cool.
C'était absolument exceptionnel, on en reparlera, je ferai une émission spéciale.
D'accord, très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres, comme chaque semaine. Ça va les gars?
Salut. Ça roule.
Vous allez bien?
Mais tranquille. Ouais. Enfin, toi, tu m'appelles jamais bébé, donc je suis un peu vexé, je t'avoue.
La prochaine fois, je t'appellerai bébé.
La prochaine fois.
On est en place, on va pouvoir y aller. On va tout de suite commencer avec les avis des spectateurs sur El Royal. Ça vous dit?
Allez.
Oui, señor.
Allez, go.
Bon. Cette mission, c'est quoi?
C'était pas mal du tout. On retrouve à Drew Goddard, le réalisateur, son goût pour filmer tout ce qui est faux semblant. Le film est complètement déstructuré narrativement. Puis dans la mise en scène aussi, au niveau de sa façon de laisser le spectateur deviner ce qui va suivre. Le côté voyeuriste aussi du spectateur qu'on retrouvait là aussi dans son premier film. C'est un film très 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 écrit. Et puis le sous-texte est hyper intéressant. Il interroge vraiment les mots MAUX de l'Amérique contemporaine. J'ai rarement vu un film qui était à ce point anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Il faut absolument courir aller le voir, c'est très 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 bon.
C'était rigolo, je dirais un peu farfelu. Bon, il y avait de la bonne musique des années 60-70, trucs comme ça. Voilà, bon. Un bon divertissement.
J'ai aimé, c'était un petit peu lent, je trouve. Mais non, c'est une belle histoire. C'est assez marrant. Non, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Qui est tous ces allers-retours, tout ça. Mais en fait, on arrivait bien à comprendre toute l'histoire et c'était assez sympa.
Je trouve que la réal, la photographie, tout était parfait. Le personnage de Chris Hemsworth, c'est énorme. Même tous les acteurs sont énormes. Mais il y a quelque chose sur la fin qui a trébuché. Enfin, je sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire, mais la fin est un petit peu grand-guignolesque et c'est dommage parce que je pense qu'on est passé à côté vraiment d'un chef-d'œuvre de cinéma.
Waouh, un chef-d'œuvre de cinéma. Alors, je dois dire que pour moi, ça a été une très, très bonne surprise ce film, mais alors je m'attendais à tout sauf à ça, à ce que Jérôme me dise, je pense qu'on est passé à côté d'un chef-d'œuvre de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Plutôt conquis par le film, un chef-d'œuvre, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose, d'un très grand film ou pas, dites-moi.
Vas-y Pierre, moi,
allez Pierre, vas-y, ça fait longtemps qu'on t'a entendu, vas-y.
Un chef-d'œuvre, non, j'irai pas jusque là. Par contre moi ça a été plus qu'une très bonne surprise, j'ai trouvé vraiment le film excellent. Je suis pas entièrement en désaccord avec cette personne.
Avec Jérôme.
C'est vrai que quand la fin est arrivée, bien sûr, on va pas vous raconter ce qui se passe. Il y a un petit côté grand guignolesque qui, sur le moment, m'a un petit peu dérouté. Et je me suis dit, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ah, dommage, on avait vraiment un truc bien. Et là, pour moi, il passe à côté de quelque chose. Et en même temps, les choses étant ce qu'elles sont au fur et à mesure de la narration, la scène prend de plus en plus d'ampleur et je trouve qu'il y a vraiment un très bon moment de cinéma qui se passe sur cette fin, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Le film, très bonne surprise. Drew Goddard, moi j'ai pas vu grand chose de lui, j'avais vu la cabane dans les bois, que j'avais moyennement apprécié.
En même temps, c'est son deuxième film en tant que réalisateur.
C'est
sa deuxième réalisation.
Ah, il me semblait qu'il avait déjà réalisé un truc avant.
Non, c'est son deuxième film en tant que réalisateur.
Il devait réaliser The Martian à une époque.
Seul sur Mars. Et qu'il a coécrit.
Seul sur Mars, pardon.
Il a coécrit pas mal de films.
Après, il a seulement écrit, ouais.
Ok, bah, il avait coécrit, j'ai vu Cloverfield aussi, World War Z.
Ouais.
Le truc, c'est que malgré le fait que j'ai pas tellement aimé La Cabane dans les Bois, qui était aussi avec Chris Hemsworth d'ailleurs, on retrouve ses obsessions de cinéaste. Alors je sais pas si c'est un peu tôt pour parler d'obsession de cinéaste pour un mec qui a fait que deux films, mais on voit cet aspect voyeuriste, et d'ailleurs il le dit.
Antoine.
Que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être au premier abord, que tout le monde a un secret, que tout le monde cache quelque chose. Et d'ailleurs, cette espèce d'environnement et ces personnages tous un peu en couleur, qui d'ailleurs commencent comme des archétypes de cinéma. Mm-hmm. Moi, j'ai tout de suite pensé à une chose quand le film démarre, c'est au Cluedo, tu vois. On a ces personnages hyper marqués, presque cartoonesques, notamment un vendeur d'aspirateurs joué par John Hamm, qui est vraiment excellent.
C'est génial, ouais.
On a Jeff Bridges qui a un très beau rôle. Il joue un prêtre, et je trouve que Jeff Bridges, c'est quelqu'un qui, sur ses vieux jours, dans sa carrière au cinéma, malheureusement, il est toujours appelé pour faire les mêmes types de personnages.
Il cabotine beaucoup.
Il cabotine plus ou moins malgré lui, on l'appelle toujours pour la même chose. Et là, non seulement son nom est une référence à ses films marquants, puisqu'il s'appelle Flynn, comme dans Tron, mais surtout, il a un vrai beau rôle. C'est un personnage qui est vraiment touchant, intéressant, intriguant.
Moi, c'est pas celui qui m'a le plus touché.
Non mais tout ça, voilà, on va y revenir. Mais ça commence très bien, ça commence comme un mystère. Il y a quelque chose de Cluedo. On sait qu'il y a des choses qui tournent pas rond, que tous les personnages cachent quelque chose, que cet hôtel est pas normal. Hôtel divisé en plus par une ligne frontière entre le Nevada et la Californie. Et le mystère prend de l'ampleur, et de nouveaux personnages rentrent dans la donne. Et moi, j'ai été happé par le film vraiment très rapidement.
Ok. D'accord.
Qui veut embrayer ?
Bah, moi, je vais embrayer.
Vas-y, Ilan.
Si je laisse Julien parler, après, j'aurai plus aucun argument, comme d'habitude.
j'ai dit pas de vanne, j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à rire.
Mince. Ah oui, donc c'est un podcast sans vanne.
Voilà,
ouais,
s'il vous plaît.
T'as pas pris
non,
vanne
non,
life,
bien sûr.
Quoi. Vanne free. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé mon séjour à l'hôtel El Rey, en tout cas plus qu'une nuit dans un Formule 1 à Beauvais. C'est sûr, c'est un peu plus glamour. C'est du voilà, vécu, hein. Okay, voilà. Ouais.
On en apprend chaque semaine sur Ilan, c'est cool.
C'est beau, je suis là pour ça, si tu veux. Et non, ce que j'aimerais plutôt rebondir sur ce qu'a dit Antoine, effectivement, sur le côté politique du film. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup plu dans ce film, comme c'était le cas aussi dans La Cabane dans les Bois, ouais, c'est que c'est un film sur les faux semblants.
Oui, exactement.
Sur les apparences, sur ce qu'il y a derrière les apparences, et le fait que ça se situe à la fin des années 60, en pleine investiture de Nixon. J'ai trouvé ça très drôle, très ironique. Et c'est un des trucs qui m'a le plus, le plus marqué dans ce film. C'est cette thématique de l'apparence. Ouais. Et sa structure qui... Alors, le truc, c'est que moi, Drew Goddard, j'attendais beaucoup ce film parce que j'avais beaucoup aimé La Cabane dans les Bois, contrairement à mes petits camarades.
Non, j'ai bien aimé, moi. Ouais. J'ai vu une seule fois, je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai des bons souvenirs, il faudrait que je le revoie, mais ça passe, quoi.
On fonde un club, on fait un fan club.
Avec deux membres.
Mais j'ai bien aimé le côté, ce côté ludique dans la mise en scène et dans le scénario, que je retrouve là. Sauf que, voilà, faut le dire, contrairement à Cabane dans les Bois, on n'a pas, c'est pas un film méta, c'est pas un high concept movie avec des gros twists de malade. C'est pas un truc. C'est pas un truc de. Ça sent moins le truc de petit malin que La Cabane dans les Bois, mais je dis petit malin dans le sens positif du terme. Donc du coup, on peut peut-être être un peu déconcerté par l'apparent classicisme du récit par rapport à la cabane dans les bois, mais quand on réfléchit à tous les thèmes que le film charrie et comment justement il le fait par le truchement des personnages, ce qu'il veut dire, c'est un film qui est beaucoup plus malin que ce qu'on pourrait croire et dans la structure aussi très Tarantinesque,
oui.
Voilà, oh
ouais.
C'est combien de temps en Scrabble, ça ?
De rien.
Et qui installe un... Pardon, Julien, mais... Et qui installe un bon mystère. Non, mais parce que je pensais que Julien allait prendre la parole.
Non, non, en fait, pas du tout.
Mais je vous confonds tous les deux, vous ressemblez.
On est un peu Dupont et Dupont, quoi.
Et qui installe vraiment un bon mystère. Hein. Je trouve que quand ça démarre et qu'on commence à voir les premiers éléments du gros secret, là, ça prend au trip.
On a envie tout de suite de découvrir ce qui se cache derrière ces 7 personnages qui, on le sait très bien, ne sont pas ce qu'ils semblent être, comme par exemple dans Les 8 salopards de Tarantino. où, tu, où tu sais dès le départ, ne serait-ce qu'avec la musique de Morricone, tu sais qu'il y a Anguille sous roche. Et là, c'est pareil. Mais donc, t'es vraiment déjà le film est assez captivant dès le départ. Donc, déjà bon point, je trouve.
Moi, je suis. Ouais,
t'as pas trouvé toi
la première demi-heure m'a un peu emmerdé. Ce côté chapitre, en fait, la dynamique des personnages, la caractérisation, tu vois, elle est pas. Chacun a son personnage à défendre. Et en termes de dynamique, j'étais un peu.
Je trouve ça assez marrant parce qu'on parlait de John Hamm, tu vois, qui joue une espèce de au départ. Donc, ce vendeur d'aspirateurs qui est un peu un Don Draper bis. Ouais. Et tu sais qu'en fait, c'est juste un rôle qui l'acteur qui a joué Mad Men est en train de rejouer en fait. Donc j'avais trouvé ça intéressant et je trouve que le film commence arrive justement par ce petit des petits trucs comme ça à décoller tout de suite et on a envie de savoir ce qui se cache derrière ces personnages. Cette situation ubuesque où ils sont dans la salle d'attente à attendre qu'il y ait un réceptionniste et qui pourrait être très long hein, qui pourrait être le film est un peu long, mais bon, ça, on pourra en reparler. Mais il y a ce côté, tout d'un coup, le film pique notre curiosité. Et ça, déjà, je pense qu'on peut vraiment lui reconnaître.
Oui, bien sûr, oui.
Avec une très belle musique de Michael Giacchino, moi, j'ai trouvé que la composition fonctionnait parfois très, très bien.
Et même la bande-son est top. Je redoutais le côté film jukebox, un peu, avec toutes ces musiques. Mais au final, ça marche vachement bien. Pourtant, la BO.
J'adore Giacchino, hein, mais là, j'ai pas été réceptif à la compo.
Ah, c'est peut-être pas son soundtrack le plus impressionnant, mais moi je trouvais qu'il fonctionnait vachement bien. Il y a des beaux moments, temps en temps, ça m'a bien happé, quoi.
Et puis on parle des personnages. Ce qui est drôle, c'est que chaque personnage joue une sorte de version pervertie de l'archétype dans lequel il a été enfermé à un moment donné. Julien parlait de John Hamm qui est Don Rapper, enfin qui fait une sorte de Don Rapper, de faux
Don
Rapper.
Et Flynn pour Jeff Bridges.
Exactement, j'avais remarqué ça aussi. Dakota Johnson qui joue la fille mystérieuse, mais qui a quelque chose en plus. Enfin, tout ça est assez malin.
Chris Hemsworth qui joue énormément sur sa beauté, sur son physique.
Sur sa plastique, il est excellent.
Sa plastique triple A et qui aussi est présenté comme une espèce de figure christique pervertie.
Une sorte de Charles Manson.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
Mais avec cet aspect, à un moment d'ailleurs, il a un élément du décor qui lui fait une auréole. La première fois qu'on le voit, on le voit dans la lumière comme une espèce de divinité. Et je veux dire, il joue Thor chez Marvel, tu vois.
Il marche presque sur l'eau au début.
Oui, il a un côté très critique. Il y a aussi une thématique qui, moi, m'a beaucoup plu dans le film, c'est le rapport à la violence, qu'elle soit innée ou acquise. Parce qu'on découvre que chacun a un rapport à la violence qui est assez différent. Il y en a qui en jouent, il y en a qui l'ont acquis parce que ça a été le fruit de leur environnement. Il y a des tas de choses qui sont assez intéressantes là-dessus.
Il y a Antoine qui disait dans le micro-trottoir, un truc intéressant, c'est que c'est un film très, très, très écrit. Est-ce que c'est pas un peu trop écrit, justement, par moment?
Ouais, parce que, enfin, moi, c'est ce que j'avais dit à Hélène quand on l'avait vu ensemble, c'est que, bon, le film dure 2h20, et je pense que pour ce genre de film d'histoire à tiroir, sauf si on s'appelle Tarantino et qu'on sait manier les dialogues et qu'on sait manier l'intrigue vraiment à la perfection, je pense que c'est vraiment des films qui doivent pas dépasser les 2h. C'est parce que il faut quand même qu'il y ait une efficacité. Il faut jamais lâcher l'intérêt du spectateur. Et là, c'est vrai que je trouve que le film, malgré toutes ses qualités visuelles ou même scénaristiques, tire un peu en longueur.
Mais je trouve pas que ce soit, tu vois, entre être très 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 écrit et trop écrit, je trouve qu'il y a un juste équilibre dans le film. Au contraire, moi, je trouve que le film n'est pas drivé par la conscience qu'il a d'être justement hyper carré, hyper comment dire, qui doit répondre vraiment à toutes les pistes qu'il a lancées. Non, je trouve que c'est assez fluide, au contraire.
Oui, non, mais ça n'empêche pas, le film est fluide. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand finalement tu vois ce que le film raconte, tu te dis 2h20, c'est peut-être un peu beaucoup pour ce qu'il y a à dire, en fait.
Bah, c'est ce que note Gisèle, notamment.
D'accord avec elle.
Dans le micro-trotte, c'est que c'est un peu long à démarrer. Puis voilà, moi, j'ai un peu le même sentiment aussi, effectivement.
Ça reste quand même pour moi un bon moment de cinéma.
Ouais, bien sûr.
Trop long, trop écrit, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le temps long et j'ai pas trouvé le film trop écrit. J'ai pas senti forcément les grosses ficelles scénaristiques. Je trouve que ça reste un beau moment de cinéma, un type de film qui est assez rare sur les écrans aujourd'hui. Je sais que, il me semble, Thomas, tu m'avais envoyé un petit message quand tu l'avais vu, que tu m'avais dit que ça faisait du bien. Je crois,
ouais, ça faisait ça. Ouais, ça faisait du bien de voir ça parce que effectivement,
c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. Je suis sorti de la salle et je me suis dit, ah mais oui, j'ai vu un bon film de cinéma. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Les acteurs sont tous excellents.
Avec un souci d'écriture.
c'est bien écrit. L'ambiance fonctionne du tonnerre. La photographie, je crois que c'est Seamus McGarvey à la photo. La photo est vraiment réussie.
C'est ouais.
Et ce que je trouve intelligent, alors encore une fois, voilà, Drew Goddard, je connais pas vraiment son travail.
Le directeur de la photographie de 50 nuances degrés.
Ben ah bah voilà.
Comme quoi, voilà.
Avec Dakota Johnson. Coïncidence, je ne crois pas.
Et bah c'est un complot. Hein.
Comme quoi, tout le monde a le droit à une seconde chance. Hein.
Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il me semble que ça a été aussi évoqué dans les avis qu'on a pu enregistrer. C'est que cet aspect voyeur qu'affectionne apparemment Drew Goddard, il y a une vraie implication du spectateur. Et en fait, je peux pas spoiler, mais il y a un moment, si vous voulez, c'est l'écran dans l'écran, qui regarde quoi.
Ouais, la mise en abîme.
Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a une vraie mise en abîme, etc. Et à la fois visuellement, avec cette découverte, et à la fois par l'écriture, par ce film à tiroir, par ces moments, ces flashbacks, ces personnages qui cachent des doubles identités, y a une véritable implication du spectateur qui se retrouve pris dans l'histoire, pris à observer aussi ce qui se passe, qui se trouve forcé d'être l'observateur de scènes parfois absolument effroyables. Et ça, c'est très malin. Je trouve que c'est vraiment réussi. Et encore une fois, ça fait longtemps qu'on m'avait pas proposé ça au cinéma.
Et puis moi, je trouve que le film aussi, Drogona a pas mal aussi, vraiment bien digéré, je pense, aussi le cinéma de Brian De Palma, parce que j'y ai pensé.
Ah, clairement, ouais, bien sûr.
J'y ai pensé à plusieurs, reprises.
Je penserai plus à Hitchcock quand même sur ce coup-là que De Palma.
Aussi, ouais, non, mais aussi, ça, c'est ton esprit de contradiction.
De Palma, Hitchcock, bon.
Oui, ouais, non, mais bien sûr, mais je pense que dans sa veine esthétique, je pense qu'il est plus Hitchcock que De Palma.
Ah oui, non, mais là, on parle de thématique.
Non, mais même.
Pour vous mettre d'accord tous les deux.
Hein. La façon dont il filme ses thématiques, je pense que ça le rapproche plus de Hitchcock que de Palma, mais bien sûr, toute proportion gardée. Hein.
Y a Antoine qui disait tout à l'heure dans le micro-trotte, encore Antoine, ça c'est quelque chose qui m'a pas réellement sauté aux yeux sur le film qui interroge les mots de l'Amérique contemporaine et qu'il disait avoir rarement vu un film qui était à ce point anti-Trump dans le cinéma hollywoodien actuel. Ouais, alors faut toujours se méfier un peu avec ce genre de déclaration et de ressenti parce que moi je l'ai pas.
Il y a eu Pentagon Papers de Spielberg cette année.
Bien sûr.
Et dans le genre film anti-Trump, ça se posait là.
Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui on aime beaucoup qualifier les films d'anti-Trump à la première occasion. Après, enfin, je veux bien.
Alors croire, effectivement, le lead féminin du film, c'est Cynthia Erivo, pardon.
Erivo, hein. Et excellente dans le film.
Excellente.
Faut souligner,
parce
qu'on en a pas parlé.
Donc, je sais pas du tout d'où elle sort. Je la connaissais absolument pas. Et effectivement, le lead femme de couleur dans une super production comme ça, oui, alors oui, pourquoi pas l'Amérique anti-Trump, bon, je sais pas.
Mais c'est surtout que, alors je sais pas si c'est ce qu'il a vu là, moi j'ai compris quelques parallèles avec l'Amérique contemporaine et puis mise en perspective avec les troubles politiques de l'époque, on voit de temps en temps des images d'archives sur les télévisions.
Parce qu'il faut dire, c'est quand même que le film brasse en fait tous les démons de l'Amérique des années 60-70.
Voilà.
C'est-à-dire, on parle de la guerre du Vietnam, on parle de l'affaire du Watergate en filigrane.
Et aussi à travers des personnages qui sont donc encore une fois des archétypes qui représentent des idées et ces idées qui sont parfois la fondation ou alors des piliers de la civilisation américaine et leur personnage, leur persona, l'apparence qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire Jeff Bridges en prêtre qui se révèle être autre chose, ça a aussi une signification, ça a aussi une cohérence et c'est sans doute des choses qu'on peut appliquer à un regard porté aujourd'hui sur l'Amérique de Trump. Donc on parle de religion, le personnage de Chris Hemsworth est un espèce de chef anarchiste d'une sorte de secte meurtrière à la Charles Manson. Donc voilà, tous ces personnages représentent aussi des idées. Et en ça, j'imagine qu'on peut le voir comme une vision de l'Amérique d'aujourd'hui. Après, un commentaire
anti-Trump,
anti-Trump.
C'est un peu facile.
Je sais pas, il faudrait que je revoie le film.
Parce que moi, je pense quand même que le film reste quand même un très bon exercice de style, mais qui reste coincé dans cette étiquette en fait. Je pense pas qu'on puisse que ça soit vraiment un film qui ait quelque chose à dire de nouveau et de vraiment pertinent, que ce soit sur l'Amérique du passé ou sur l'Amérique d'aujourd'hui. Parce qu'on reste quand même comme j'ai dit, le film est sur les démons des États-Unis de l'époque. Et finalement, ce qu'il dit dessus n'est pas plus original ou vraiment nouveau que par rapport à ce que d'autres cinéastes plus prestigieux ont pu dire par le passé.
Et puis finalement,
Vas-y.
Et finalement, on parle aussi de mensonges, d'argent, et c'est quelque chose que j'imagine on peut appliquer à peu près n'importe qui, sous beaucoup de gouvernements.
Il se trouve que les thèmes brassés dans le film trouvent une résonance dans l'Amérique actuelle, mais je pense pas que ce soit voulu. C'est aussi le rôle du cinéma, par le truchement du passé, d'être le miroir par le passé, d'être aussi le miroir du présent. Donc c'est une sorte d'un peu d'archétype du cinéma. Donc si on dit ça de Saltan à l'Hôtel El Rey, je pense qu'on peut dire ça de plein d'autres films dont c'est pas forcément la fonction. Donc là on est dans un raccourci peut-être un peu trop facile, même si je comprends le cheminement.
Peut-être juste voir si parce que l'État de Californie est, parce que cet hôtel est divisé par une ligne frontière entre le Nevada et la Californie. Peut-être que la Californie, on sait qu'elle est relativement démocrate. Peut-être que le Nevada est plutôt conservateur et républicain. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Mais moi, je l'ai pas. Ça m'a pas frappé en voyant le film.
En écoutant les commentaires, il y a quelque chose quand même que je. Ce qui en ressort, c'est que on entend plusieurs personnes là s'exprimer. J'ai l'impression qu'on a du mal à classer le film, en fait. Il y a cette notion où on a Gérard qui dit que c'était assez rigolo, c'était farfelu, il l'a pris vraiment à la légère. Antoine qui l'a pris beaucoup plus au sérieux avec ce commentaire anti-Trump. Gisèle qui trouve ça assez marrant. Jérôme qui voit un chef-d'œuvre manqué du cinéma. Dans quelle catégorie est-ce qu'on pourrait classer ce film? Parce qu'il y a quand même un très bon bouche à oreille. Je sais que toi, tu l'as vu en séance publique et c'était
archi blindé.
Donc je sais pas comment est-ce qu'on peut, dans quelle catégorie on pourrait ranger ce film.
C'est difficile parce qu'il a plusieurs tonalités. C'est vrai que le tout début, il y a un côté un peu ironique quand on voit un personnage mettre sa chambre sans dessus dessous et t'entends une petite musique des années 50. Donc tu t'attends à un truc, une petite comédie légère ou un truc comme ça.
Comme la bande annonce, en fait. La bande annonce jouait sur deux tonalités. En fait, c'était très sucré au début et puis hop, rupture de.
Et ça passe aussi beaucoup par la musique, parce que la playlist du film est assez sympa. Ce que je disais tout à l'heure, moi je regrettais le film Jukebox, mais au contraire, justement, toutes ces musiques là sont là pour représenter, pour donner une couleur, en fait, au film. C'est ça qui est aussi assez important.
Et les paroles, parfois si on écoute bien les paroles, on peut les appliquer à la scène qui est en train de se dérouler.
Waouh!
Non, mais c'est vrai, il y a un moment particulier entre Jeff Bridges et ce personnage, c'est Darlene, je crois. Elle met une musique et les paroles sont lourdes de sens.
Et puis il y a un Illuminati quelque part aussi.
Ah, t'as dit quoi, Mimimati?
Non, Illuminati.
Ah, d'accord, pardon.
Il y a Mimimati.
D'accord, ok.
Illuminati. Il a un tout petit rôle. Pardon.
Non, mais les Mimimati, c'est une secte aussi, faut pas le croire.
Bien sûr. Tu voulais dire un truc sur la.
Ouais, non, parce que c'est intéressant ta question, parce que. Ce problème qu'on a à catégoriser le film, ou que tout le monde trouve que c'est un peu un film un peu frais, un peu nouveau, qu'on n'a plus l'habitude de voir. Est-ce que ça dit pas quelque chose, finalement, du cinéma d'aujourd'hui, qui est tellement formaté, tellement dans des cases bien définies, que dès qu'il y a un film qui s'échappe un petit peu de ce cadre-là, tout d'un coup on est perdu, on n'a plus de repères, c'est vrai qu'on en avait discuté, Thomas, on s'était dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça. Et finalement, tu vois, le Tarantino, les 8 salopards, il est pas si vieux que ça.
Oui, bien sûr.
Et pourtant, ça fonctionne sur des mêmes mécaniques. Donc, est-ce que c'est à force de voir toujours les mêmes films, Alors, on va pas critiquer Marvel pour critiquer Marvel, mais d'être inondé de films de super-héros, d'espèces de blockbusters qui se ressemblent les uns les autres, est-ce que finalement, on perd pas complètement le sens des réalités et se dire que voilà, en fait, on ne sait plus ce que c'est, ce genre de film.
Mais tu vois, du coup, je me dis que finalement, le public n'a pas le cerveau aussi lavé qu'on le pense, puisque le bouche-oreille est vachement bon sur le film. Hein.
Non, mais ça, c'est bien, c'est que les gens ont envie de voir un film comme ça. Pour moi, me dis, il reste de l'espoir, quoi.
J'ai une dernière chose. Le point Xavier Dolan, est-ce qu'on en parle?
T'as jamais oublié ça.
Il est bien dedans.
C'est un tout petit rôle.
Moi, je savais pas qu'il était dans le film.
Je m'en rappelais plus.
Bon. Autre chose à rajouter? Terminé?
Non,
c'est bon. Ok, très bien. On a fait un petit sondage sur Twitter, aussi sur le Twitter de l'émission. 80% des gens ont répondu plutôt bonne surprise. 20% pas mal, sans plus. Mais plutôt très bonne surprise dans l'ensemble pour 80%.
C'est un film qui joue énormément sur l'inattendu, la surprise, le suspense. Donc ça plaît. Hein. C'est fait pour plaire au grand public, ça aussi.
Oui, mais c'est parce qu'il y a Chris Hemsworth aussi qui est à poil, quasiment à poil dans le film. Donc forcément.
Mais il est pas mal Chris Hemsworth
cool,
dedans. Hein.
Il est vraiment cool.
Il est cool ce personnage.
Et d'ailleurs, j'ai appris que Chris Hemsworth est torse nu dans 15 films sur les 17 qu'il a tourné.
Et comment t'as appris ça?
Bah écoute, j'ai fait des recherches.
En faisant des arrêts sur image.
Exactement. Il a regardé tous les films de Chris Hemsworth.
Ouais.
Allez, on quitte les années 70 pour aller au 14e siècle. Donc je vous propose d'enfourcher vos chevaux, vos cottes de maille, de prendre vos épées, puisque nous allons parler. Nous allons rejoindre 1306 et la quête de Robert Bruce, le premier roi d'Écosse. Hein, c'est bien ça?
T'es un peu largué, c'est ça?
Ouais,
de Bruce.
Tu peux dire Robert Bruce aussi.
Allez, c'est parti. Outlooking, le hors-la-loi signé David Mackenzie, qui est un jeune cinéaste écossais que, enfin, moi j'apprécie beaucoup puisqu'il a signé Comancheria. Nomination aux Oscars, 4 nominations aux Oscars d'ailleurs, et qui là débarque sur Netflix avec un film d'aventure médiéval qui serait un peu la fausse suite de Braveheart, hein, si je vous m'arrêtez.
Oui,
si
c'est
je...
un peu ça, oui. Historiquement, qui se situe après.
Voilà, c'est juste après. D'ailleurs, on voit un membre de William Wallace qui a été écartelé dans le film.
On voit ce qui est devenu Mel Gibson, en fait.
Voilà, avec Chris Pine. J'ai envie de dire Chris Pine, c'est horrible. Chris Pine.
Toi, tu penses à une scène du film en particulier. Hein.
Qui incarne donc Robert de Bruce, qui devient donc le premier roi d'Écosse contre son gré après avoir mené son pays à l'indépendance face aux Anglais.
Contre son gré, non.
Contre son gré, qu'est-ce que j'ai dit?
Bah non, justement, il souhaite être roi d'Écosse, c'est pas contre sa volonté.
Ah, pardon, autant pour moi. Désolé. Bon, bref.
En fait, Thomas s'est trompé de film.
Non, mais pardon.
Il a vu Le Dernier Roi d'Écosse de Kevin MacDonald.
Pardon, autant pour moi.
C'est pas la même chose. Hein.
Non, bravo. Merci de m'avoir repris.
Avec Forest Whitaker.
Alors, moi j'ai trouvé. Enfin, j'ai été très frustré par le film. J'ai réussi à me projeter devant un grand film sur ce sujet-là, un grand film de cinéma. Je pense qu'il y a un souci avec le côté Netflix, en fait. C'est bête à dire, hein, mais je crois que ça ressemble vraiment à un film parfait pour la SVOD, en plus, avec plus de moyens, on voit l'argent à l'écran, mais je sais pas. Dans la forme, il y a quelque chose qui m'a gêné. Chris Pine, j'y ai pas tellement cru non plus. Je suis un peu embêté sur ce film. Qui veut?
Bah moi je vais commencer parce que je te suis un peu en fait.
Ouais, Julien.
J'ai ressenti une frustration dans le film parce que Mackenzie avait fait.
T'es assez frustré comme. comme
je suis frustré comme gars en général, oui, mais là.
J'ai pas ressenti le côté épique que je pouvais avoir devant un Braveheart en fait. Et je vois l'ambition, je vois la volonté du réalisateur sur l'écran, je vois ce qu'il a envie de nous montrer, mais j'ai pas été emporté.
Le film a des arguments. Je veux dire, bon, il y a la bataille finale quand même qui est quand même pas mal. Hein,
ouais, mais avant
sans,
la bataille finale.
Aller dans le. Je veux dire, le problème, c'est qu'on va beaucoup comparer le film au Braveheart de Mel Gibson, et qui est un classique, hein, faut bien se le dire.
Oui.
Mais c'est surtout qu'il y avait. Dans Braveheart, il y avait un point de vue, il y avait une dimension. Voilà, le film prenait une dimension christique, choisissait de faire le personnage, un Jésus-Christ bis, au détriment de la vérité historique. Hein. Je veux dire, le film de Mel Gibson arrange beaucoup l'histoire à sa façon. Mais il y avait un point de vue de cinéaste, avec des obsessions et tout ça. Et là, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu du mal à voir le point de vue de Mackenzie sur cette histoire, en fait. C'est dire en quoi ce personnage est tiraillé, ou qu'est-ce qui le pousse à agir, tout ça. C'est j'ai trouvé que le film était un peu en mode automatique au niveau des personnages, de l'histoire, et que finalement je voyais les personnages mais je ne les ressentais pas. Il m'était sympathique, mais s'il disparaissait du récit, je pense pas que j'en aurais fait tout un plat, quoi. Alors que le film a quand même des arguments, notamment visuels, où bon, on va pas ressortir le coup du plan séquence à foison. Bon,
il y a l'ouverture.
Oui, il y a une ouverture en plan séquence, mais
on a vu mieux quand même.
On a vu mieux, mais voilà, qui essaye en moins d'imposer de la mise en scène, mais ce n'est jamais soutenu en fait par un point de vue qui aurait du caractère, en fait. Je veux pas dire que le film est plat, c'est juste que je trouve qu'il lui manque quelque chose pour le nourrir vraiment au niveau intime et au niveau narratif. Voilà,
je crois que Pierre est pas tellement d'accord avec toi, en fait.
Allez, vas-y. Oui, j'ai dit que j'allais défendre ce film,
mais t'as
non, mais alors je suis d'accord que le film est pas parfait. Et personnellement, j'ai mis pas mal de temps à rentrer dedans. Les premiers temps du film ont été un petit peu compliqués pour moi. Je suis d'accord notamment autour de ce que vous avez dit sur Chris Pine, qui est un acteur que, j'ai rien contre lui. Mais c'est vrai que cet acteur américain, hollywoodien, qui débarque et qui doit jouer ce personnage de roi écossais, parce que il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que Robert Ier, roi d'Écosse, Robert Bruce, en France, c'est pas quelque chose qui nous parle véritablement. Mais par contre, en Écosse, c'est quand même un personnage historique, c'est une figure historique extrêmement importante.
Cœur vaillant.
C'est un des piliers de l'histoire écossaise. Et sa représentation dans les médias ou sur grand écran, elle a été parfois même assez problématique, parce que j'ai beaucoup aimé Braveheart. Dans Braveheart, Mel Gibson avait pris le
C'était Judas. Hein.
Voilà, il en avait fait un personnage Judas. C'était quelqu'un d'extrêmement calculateur, dont le courage était. Qui était. Comment il s'appelle cet acteur écossais d'ailleurs? Angus Mac.
MacFarlane.
Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Je l'aime bien, mais. Et d'ailleurs, Braveheart a laissé son empreinte, bonne ou mauvaise, hein, sur le cinéma.
Bonne, sur le dire.
J'aime beaucoup Braveheart, mais c'est vrai qu'il a pas mal déformé la réalité. Et cette histoire écossaise ou ces histoires anglo-saxonnes comme ça, elles sont souvent vues aujourd'hui dans l'ombre de Braveheart. Mais en fait, par exemple, donc Braveheart, c'est la révolte de William Wallace, l'écossais, contre ce roi anglais, c'était Édouard Ier d'Angleterre.
Édouard le Sec.
Mais Édouard Ier d'Angleterre, il a été dépeint comme un tyran dans Braveheart, et depuis, c'est plus ou moins l'image qu'il a. Et si tu veux, même dans ce film aujourd'hui, il est dépeint comme un tyran fou furieux. D'ailleurs, ils sont allés chercher l'acteur qui joue Stannis Baratheon dans Game of Thrones, qui est aussi un tyran.
Il y a plein d'acteurs de Game of Thrones.
Il y a beaucoup d'acteurs de Game of Thrones. Cosmo, et ce qui est historiquement n'est pas nécessairement vrai, c'est encore débattu tout ça. Et ce que je voulais dire par là aussi, alors Chris Pine, c'est qu'ils sont allés chercher cet acteur américain. Alors il avait déjà tourné avec lui dans Comancheria.
Et c'est très bien dans Comancheria.
Je peux comprendre que pour vendre le film au grand public, au public international, c'est intéressant d'avoir Chris Pine. Après, pour la véracité, pour l'aspect authentique et historique, moi qui suis toujours à cheval sur les accents, l'accent écossais c'est un accent extrêmement particulier. Sur tous les personnages, ils ont revu ça à la baisse pour que ça parle à mon avis au grand public et notamment au public américain. Du coup, l'accent de Chris Pine passe un peu.
J'adore le point accent.
Non, mais si tu veux, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Non,
mais c'est vrai que l'accent écossais est bien sympa et c'est vrai. Oui. Et par exemple, dans la série Outlander, tu vois, les mecs qui prononcent, ils ont été à fond sur les accents.
Alors que là, ils ont mis le curseur sur une échelle de 1 à 10, ils ont mis le curseur à 2. Du coup, l'accent de pour tous les autres personnages, tous les autres acteurs, y compris les écossais, du coup, l'accent de Chris Pine qui est un peu fluctuant, parfois ça passe. Tu vois, j'ai aussi qu'il y a des faiblesses, notamment les scènes avec la reine, son époux, puisqu'il épouse une anglaise.
L'actrice de Young Lady qui était vachement bien.
Je trouve que ces scènes d'intimité, etc., parfois font un petit peu artificiel. On n'est pas vraiment impliqué. Et en fait, pendant tout le début du film, je me disais, mais il y a quelque chose, ça va pas, ça manque de panache. Et j'avais Braveheart dans la tête. Je me dis, ça manque de panache. Chris Pine, il manque de stature. Et ça, par contre, j'en démords pas. Enfin, je trouve qu'il manque de
charisme, hein, tout court.
Il manque de charisme dans ce rôle. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais ce film manque de panache, et en même temps, oui, en fait, c'est le propos du film. C'est le propos de traiter cette histoire sous un angle beaucoup plus plausible, beaucoup plus historique. D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait qui est assez remarquable, je trouve, sur les costumes, sur les écussons, sur les couleurs. C'est un film avec de la couleur, tu vois. Contrairement à tous les films d'épée qui sortent aujourd'hui, qui ont cette espèce d'étalonnage bleu-gris qui, moi, me saoule. Tout est revu à échelle plus humaine. Ça a beau être un film qui coûte 120 millions de dollars.
120 millions de dollars.
Ouais. Et ben c'est un film qui n'est que dans des décors naturels et avec des figurants déjà. Il y a pas tant d'effets spéciaux. Il y en a quelques-uns bien sûr.
Surtout sur la fin, mais.
Et toutes les batailles, les événements sont traités à échelle réduite. Comme ce qui a été d'ailleurs la lutte de ces Écossais contre les Anglais, qui était vraiment une poignée face à la masse. Et moi, il y a une scène qui m'a. Tu vois, j'avais du mal à rentrer dedans. Il y a une scène qui, moi, m'a pris, et c'est là où je suis rentré dans le film, et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. C'est cette scène où Robert Bruce, avec quelques hommes, repart à la conquête d'un château qui a été pris par les Anglais, et il s'infiltre de nuit.
Façon guérilla.
Oui, et c'est le moment où, juste avant, le roi, il y a il perd, personnel, sa femme est capturée, etc. Bon, bref. Et il dit, mais fini la chevalerie, maintenant, on va se battre comme des loups.
Non mais c'est la fin. Tu parles d'une scène qui intervient à deux tiers du film.
Ouais,
quand
non
même.
Mais on c'est est très vers la moitié. Non mais
ils ont à peine commencé le truc de guérilla qu'à un moment t'as Robert Bruce qui fait bon allez maintenant on va sur le champ de bataille. C'est un peu écourté, je trouve.
Cette scène, pour moi, elle veut tout dire. C'est-à-dire que la dimension, la fragilité de sa rébellion, la dimension humaine, la petitesse de son combat face à l'armée anglaise, l'implication de ce roi qui y va de lui-même, moi, ça m'a parlé beaucoup plus. Et surtout, les enjeux sont très clairs à ce moment-là dans la scène. Alors qu'avant, quand il veut te faire une grande scène de bataille la nuit, un peu épique,
non, c'est pas faux, c'est pas faux,
ouais. Ça marche pas et on n'y croit pas. Alors que là, soudainement, les enjeux sont très clairs. On se rend compte de la fragilité de l'opération. Et là, moi, je suis rentré dans le film et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a des vraies qualités dans ce truc et en fait, c'est pas mal du tout.
Bon, ok. Après cette leçon d'histoire.
Allez, vas-y, là.
Écoute, moi, je vais être comme Pierre, je vais défendre le film pour plusieurs raisons, mais l'une des choses, si tu veux, contrairement à d'autres films Netflix qui, moi, m'ont beaucoup déçu, Mute, Extinction, qui m'a un peu moins déçu, mais bon, voilà, toutes ces productions Netflix, c'est l'une des premières productions Netflix où je me suis véritablement dit, j'aurais aimé.
Attends, excuse-moi, je te coupe. Le film a quand même fait l'ouverture du festival du film de Toronto, hein, quand même.
D'accord.
D'où il a été d'ailleurs, on lui a coupé 20 minutes.
Ouais. Non, c'est le réalisateur qui a décidé de lui-même de couper 20 minutes.
Mais voilà, il dit que c'est son director's cut quand même.
Peut-être que si ces 20 minutes n'auraient pas été bénéfiques au film. Mais bon, après ça,
c'est possible. Vu l'histoire, peut-être ça aurait gagné être un peu plus long.
C'est intéressant de le dire parce qu'avant de dire que c'est un film Netflix, c'est un film qui a été présenté dans un festival quand même, tu vois.
Mais nous, voilà. on l'a pas, si tu veux.
C'est pas une production Netflix, je pense que c'est un rachat.
D'accord.
Voilà ce que je veux dire.
Ok. Bref. Alors, on va dire les films estampillés Netflix.
Voilà.
tu préfères. Donc, on va dire les films estampillés Netflix. Là, c'est l'un des premiers où je me suis dit que j'aurais vraiment voulu le voir sur grand écran, vraiment dans une salle de cinéma, parce que je pense que ça donne aussi un autre souffle au film. T'as des scènes de bataille, notamment la bataille finale.
Elle est bien,
qui est quand même super bien exécutée.
Moi, je l'ai trouvé très bien.
Où tu sens un véritable souffle épique. Enfin, il y a une ambition, il y a quelque chose. Moi, j'étais véritablement happé par cette.
Moi, je trouve pas.
Mais peut-être que tu trouves que ce manque des Thomas que le film manque d'épique parce que je pense que quand même la musique est un peu flébarde.
Ouais.
J'allais y venir, la musique est très flébarde.
Ça manque un peu d'envolée, c'est une musique très minimaliste. Et je me suis dit, c'est un peu dommage. Il fallait un petit souffle.
Oui, ça manque d'une véritable partition. Effectivement, d'un vrai souffle orchestral. Par contre, si tu veux, moi, voilà, j'aimais ce côté-là. Et surtout, en fait, je n'ai pas voulu me souvenir de Braveheart pendant le film. J'ai vu le film, mais j'ai essayé d'oublier totalement Braveheart, même si ça se situe dans la continuité de Braveheart, même si on parle du personnage de William Wallace. Je me suis dit, si tu compares le film à Braveheart, c'est d'une certaine manière tu le condamnes automatiquement, parce que c'est pas la même ampleur, c'est pas la même.
Oui,
chose,
c'est vrai. Non, mais c'est pas
le même propos surtout.
T'as d'accord.
Oui, c'est partir perdant que de faire ça. Donc je l'ai pris comme un film à part entière qui racontait une autre histoire que Braveheart, et de fait je l'ai trouvé plutôt bien exécuté. Il y a des choses qui effectivement sont un peu faiblardes. Enfin, c'est pas un film parfait. Il a ses défauts, effectivement.
Aaron Taylor Johnson, par exemple,
mais qui est pas si mal dedans.
Il est pas si mal.
La présentation,
il est pas, il est pas si mal, ça va.
Il se donne à fond en plus.
Mais il y a des petits trucs, il y a des petits
Douglas
que j'aurais aimé le voir plus.
Que j'ai aimé dans ce film, notamment la relation qu'il a avec cette fameuse reine. Je trouve que leur couple fonctionne bien, leur relation fonctionne bien. Moi, ça m'a touché. Ouais,
ça t'a touché.
Ouais, d'accord. Voilà, j'étais
comme ça.
Petit côté fleur bleue.
T'aimes pas voir les femmes en cage, toi.
Non. ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'heure de la soirée, ça dépend de beaucoup de choses.
Bref.
Mais ok. Mais voilà, donc je lui ai trouvé un certain souffle épique et j'ai regretté de pas le voir sur grand écran.
Et on parlait tout à l'heure sur Hôtel El Royal de la dimension politique. Je sais pas si c'était le point de vue de Mackenzie, qui est quand même un réalisateur écossais, mais un écossais qui s'est expatrié aux États-Unis pour ses derniers films, qui a fait des films très chouettes, et qui revient en Écosse post-Brexit pour nous parler de la lutte de l'Écosse qui s'unit face à l'envahisseur britannique. Je trouve que le film sort aujourd'hui, c'est pas complètement, c'est peut-être pas innocent, tu vois. L'Écosse qui était farouchement opposée au Brexit.
Mais là, encore une fois, c'est
je veux pas extrapoler
quand
à mort.
J'ai perdu le nom du personnage, le roi.
Robert Bruce.
Quand il va chercher des gens pour dire venez, battons-nous sous une seule bannière, tout ça. Je trouve que le film est un peu en mode automatique et finalement, cette dimension politique, je l'ai pas ressentie. Je trouve que il y a un côté il y a les cases à cocher et on voilà, c'est quand c'est fait mais on s'y attarde pas, on
je suis assez d'accord.
Ouais, un petit peu, bah, surtout venant du mec qui a fait Comancheria, parce que c'est vrai que Comancheria c'était vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu. Et moi j'avais vu son précédent film, Les Poings sur les murs, qui était vraiment bien aussi.
Contre les murs, ouais, il y avait Toy Boy aussi.
Je les ai pas vus les autres avant, donc apparemment c'est un cinéaste un peu inégal, oui, mais ouais. Bon, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est vraiment ces deux derniers films m'avaient vraiment plu, et j'attendais un film dans cette lignée, et j'ai pas l'impression de l'avoir eu. Après, le film, je le répète, a vraiment des qualités, hein. c'est pas une merde. Hein.
Ah non.
C'est juste que, est-ce que j'en attendais trop, est-ce que je me positionne trop sur Braveheart comme le Pensilan, je sais pas, mais pour moi il y a un problème où je pense que le film n'exploite pas à fond son potentiel en fait.
Oui Pierre.
Voilà, après je sais pas, on va peut-être clore.
Vas-y.
Je dirais juste que voilà, le truc c'est que je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part de McKenzie de traiter ça sans cette espèce d'héroïsme exacerbé de métaphore christique qu'a pu avoir Mel Gibson, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre. D'ailleurs le film est tout le temps les pieds dans la boue, tu vois. Et ce roi a que très peu de moyens, je trouve que c'est assez cohérent à ce niveau-là. Encore une fois, c'est pas parfait, je trouve qu'il y a des défauts. Voilà, je voulais simplement mentionner un comédien qui s'appelle Billy Hall, qui est celui qui joue le prince de Galles, donc le fils du roi Édouard Ier, qui sera le futur Édouard II. Et je trouve que le comédien est vraiment excellent, le personnage très bon. Moi, je trouvais que vraiment ce comédien avait livré une très très bonne performance, et c'est un mec qui avait un petit rôle dans Dunkerque de Christopher Nolan. Il jouait un jeune soldat, et voilà, je trouvais très très bonne surprise dans le film, et moi c'est lui
film anti-Brexit Dunkerque,
et c'est lui que je retiens dans ce film.
Alors moi j'ai un peu de mal avec ce personnage, parce que je le trouve un peu trop Commodore, tu sais, dans Gladiator.
Oui, voilà, il m'a fait penser à Joaquin Phoenix. Ouais.
Je suis dans l'ombre de mon père et je vais redoubler de sadisme pour montrer que moi j'en ai, quoi, tu vois, je suis pas comme papa.
N'empêche qu'il le fait bien.
Ouais, il le fait bien, oui, effectivement, on peut lui reconnaître ça. Juste, je clôt juste sur ce truc, je suis tout à fait d'accord justement avec Pierre sur la dimension humaine du film. Je pense que c'est la chose qu'il faut retenir du film, c'est que c'est pas un film qui va en faire des caisses et de ça, et qui veut rester à une échelle très 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 humaine, voire intimiste dans certains passages. Donc si on le prend sous cet angle, je trouve que c'était un bon petit film de bataille médiévale.
Un bon petit film de bataille médiévale, voilà.
Ce sera le mot de la fin. Il faut dire que ça court pas les rues non plus. Donc
ce sera le mot de la fin. Et alors, on a fait aussi encore une fois un petit sondage sur Twitter. 67% d'entre vous ont trouvé le film épique, 17% pas mal, 8% trop violent et 8% moins déçu.
C'est vrai que c'est quand même, faut le dire, juste prévenir les gens, c'est assez sanglant. C'est un peu cru par moment. C'est un film totalement.
Il y a une scène de pendaison notamment.
C'est un film totalement post Game of Thrones, qui a décomplexé pas mal de productions de ce genre.
Voilà.
Je sais pas ce qui se passe en bas là. Ouais.
Non, je crois que c'est Pierre a raison en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est pour célébrer.
Non, mais il y a des tripes, il y a du sang, voilà.
Ok, très bien. Outlook. Outlook. Ok, super. Outlooking, le hors-la-loi, c'est sur Netflix. On attend vos commentaires sous le fichier du podcast.
Outlooking.
Allez, merci à Antoine, Gérard, Gisèle ou encore Jérôme pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle d'hôtel El Royal. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les applis podcast évidemment, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, laissez-nous des étoiles notamment sur iTunes, Apple Podcast on dit d'ailleurs je crois maintenant, et puis vous abonner également sur Spotify, on vous attend très nombreux sur Twitter également, @fin2_séance, #fin de séance. Voilà, je pense que tout a été dit.
Bah, sinon venez au bar, on est toujours là.
Ouais. Voilà.
Tous les jours du lundi au vendredi, voire du samedi,
le Hurling Pub en fin de semaine à la mezzanine, je pense que ça y est, on est bien installé, donc il y a de la place.
50 nuances de bière.
Exactement. Bah tiens, merci beaucoup Ilan.
De quoi, pour mes petits mots d'esprit?
Oui,
mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir.
Comme d'hab, on te retrouve sur
cinevibe.fr et cinevibe.fr sur Twitter. J'en profite juste, puisqu'on était dans les dédicaces tout à l'heure, à faire une dédicace pour Leïla, qui est une de nos auditrices fidèles.
Ah, bisous Leïla.
Voilà, bisous à Leïla, qui d'ailleurs surnomme Pierre le bavard, mais de manière très, très affectueuse.
Et j'espère que j'ai suffisamment parlé pour elle cette fois.
Voilà, donc petite dédicace à Leïla.
Eh ben, merci beaucoup Leïla, on te fait de gros bisous. Julien, à très vite.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr, ok, très bien. Voilà, tu vois, c'est
carré.
Moi, c'est carré.
C'est l'efficacité à la Munoz, quoi.
Oui, je sais pas comment faut l'interpréter, mais bon. Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Tu nous as manqué.
De rien, je vais pas trop en dire. Je vais m'arrêter là parce qu'apparemment, je parle trop.
Bon, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite, évidemment. D'ici là, bon cinéma et n'hésitez pas à commenter, partager, liker le podcast. Vraiment, c'est très important pour nous. Gros bisous.
Bisous, bisous.
Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.